Au moins, j'arrête là.
Non, tu vas pas arrêter acte 1, scène 1. T'aimes pas le théâtre, en fait.
Je m'ennuie un peu, je fais un peu chier.
Levée de rideau. Mise en scène par Sylviane sur Radio Alliance Plus.
Déjà, un spectateur, c'est pas beaucoup. Si en plus il dort...
Bonjour, bonjour à tous. Eh bien, écoutez, j'ai le plaisir de retrouver au micro Carlos Natalet. Bonjour, Carlos.
Bonjour, Sylviane.
Alors, un lever de rideau, puisque vous allez sur plein de scènes, plein de théâtres, hein, vous n'arrêtez pas, vous êtes un grand voyageur.
Eh oui.
Et vous programmez donc régulièrement, puisque c'est la quatrième année, des apéro-péra, je ne sais pas le dire,
apéro-péra.
Ah, voilà, c'est mieux dit. Donc, sur votre idée, et c'est la quatrième année, 2022-23, 23-24, 24-25, 25-26. Hier, c'était les héroïnes tragiques du livre à la scène.
Oui.
Vous nous avez fait pleurer. Donc, Mireille et Violetta. Donc, avant, c'était votre idée. C'est vous qui avez proposé au Musée de la Romanité.
Oui, en fait, voilà, je suis arrivé à Nîmes. Je suis un fils nîmois d'adoption. Depuis 10 ans déjà.
10 ans.
Ça fait exactement 10 ans. Et voilà, et, j'ai toujours, tiens beaucoup à partager avec le public et une, un côté un peu plus intimiste, si, ouais, si on veut.
Oui, là, il y a 180 places, on est très...
Oui.
En plus, il y a la végétation derrière,
voilà,
il y a la lumière qui descend, c'est,
oui,
c'est très beau.
Absolument.
Hein.
Je l'avais déjà fait dans d'autres villes,
ouais,
Avignon, Rennes, ouais, Rouen, un peu partout. Et je me suis dit, à Nîmes, il n'existait pas un concept comme ça.
Ouais.
Et pour faire, comme bien je l'ai dit hier dans mon petit discours, je l'ai dit pour découvrir,
ouais,
l'opéra pour certains, et pour revisiter un peu pour d'autres amateurs d'opéra, parce que, alors une chose que je tiens beaucoup, c'est à créer de nouveaux publics tout le temps, parce que voilà,
il y avait des jeunes, hein, parce
que oui,
c'est vrai qu'il y a une tradition d'opéra, il y a une tradition lyrique à Nîmes,
oui,
mais il y avait des jeunes et on sentait un public, enfin on va en reparler, Mireille, moi personnellement je connaissais pas, mais
oui,
sur la Traviata, bon, on sentait qu'il y avait
oui,
une sorte,
oui,
d'élan, on avait envie de chantonner, on vous laissait la place,
mais
à,
oui,
vous,
oui.
Et à,
non, mais écoutez, mais ça c'est la magie de ce répertoire, et la musique classique, donc c'est le répertoire de tradition qu'on appelle, et c'est pour cela que la Traviata, après 200 ans, c'est toujours d'actualité. On entend une mélodie, on a toujours ça, cette envie de danser, c'est frais.
Ouais.
Même Mireille,
ouais,
et cet ouvrage de Gounod, pas très connu aujourd'hui. Mais voilà. Alors, je tiens beaucoup à faire découvrir aux gens des répertoires un peu moins joués, si on veut. C'est pour cela qu'à chaque rencontre, et je choisis un peu de choses plus connues.
Et un peu moins connu. C'est un équilibre que vous travaillez, bien évidemment, en amont, parce qu'il,
oui,
faut toujours trouver des nouvelles idées.
Ah oui.
Et puis comme vous voyagez beaucoup, vous chantez dans plusieurs théâtres, c'est programmé, là, votre emploi du temps est millimétré.
Ah oui, oui. Non, mais ça, c'est un programme. Alors, chaque fois, normalement, on fait trois apéro-opéra par saison, mais en amont, il y a un gros travail.
Bien sûr.
Et pourquoi? Alors, il y a déjà la thématique. Et moi, j'ai choisi deux ou trois thématiques, maximum parfois, ou une thématique en commun avec plusieurs ouvrages.
Ouais.
Oui. Et je propose ça à Laurence pour préparer aussi les textes, pour avoir un lien avec la littérature. Et
oui, c'est vrai que les textes nous aident beaucoup. Elle nous rappelle, elle nous résume un petit peu. Elle a beaucoup d'humour, donc elle fait des petites notes.
Oui.
Donc c'est agréable.
Oui, mais ça s'est arrivé d'autres fois, par exemple, dans d'autres éditions, qu'on a fait, moi j'ai choisi aussi la thématique de la romanité, parce qu'on a beaucoup dans la musique classique, des empereurs, etc. etc. Donc elle a créé un lien quand même avec les antiquités. Donc voilà, chaque fois on choisit différentes thématiques pour créer ce lien entre parfois des histoires vraies avec l'histoire racontée en musique ou pas, voilà.
Ou la fiction.
Ou la fiction, etc.
Oui, oui. De toute façon, c'est la voix qui qui prévaut. Et c'est vous aussi qui cherchez le pianiste ou la pianiste et vos partenaires.
Oui.
Mais vous êtes à égalité. Hein.
Et oui. Non, alors, c'était moi qui ai proposé ça au Musée de la Romanité. Caroline et tous les gens du musée ont accueilli ça depuis le début avec grand joie. Ils sont hyper disponibles. Ils tiennent beaucoup à ces projets.
Oui, alors c'est Caroline Bertal qui est la responsable du service exploitation publique et programmation.
Oui, exactement.
Donc, il y a un très beau livret où on voit tout ce qui
est
prévu.
Oui. Donc, alors, tout l'organisation de musée, c'est magnifique dans ce côté. Mais moi, je suis le responsable artistique, on peut dire.
D'accord.
Et c'est moi qui choisis les thématiques et c'est moi qui invite mes collègues qu'ils viennent ici.
Selon leur disponibilité aussi.
Absolument.
Parce que les musiciens
partagent dans le monde
entier.
Et surtout, alors, je tiens beaucoup à maintenir toujours un niveau parce que, voilà, comme vous avez vu hier, Anaïs Constance, elle vient de chanter à l'Opéra de Nice, elle chante à l'Opéra de Toulouse, et d'autres collègues, par exemple, la version, l'édition dernière était Jennifer Michel, voilà, qui la chante partout en France. On a eu Lucie Roche, un contralto qui chante des Champs-Élysées, la prochaine, on va voir Valentine Lemercier qui chante un peu partout aussi.
Et ce qui est très bien, c'est cette proximité, comme c'est un petit auditorium. Dans Mireille, quand elle dit je marche, et qu'elle monte les escaliers et qu'elle sort par la porte de derrière, ça crée une intimité.
Mais c'est ça. Et je tiens beaucoup à ça parce que, évidemment, le public nous voit toujours sur scène et déguisé parfois. Et ça, je crois que, je tiens beaucoup à découvrir ces côtés, ces liens approximatifs, et très proches d'avoir un chanteur, quelqu'un qui chante là à 5 mètres.
Et... Mais ça ne minimise pas, on écoute, on est pris dans la beauté, mais ça ne minimise absolument pas ce travail, puisque vous répétez, vous voyez un jour ou deux avant.
Non, alors on répète comme si on devait jouer dans une grande scène. Ça ne change pas.
Il y a une mise en scène, c'est ça qui est important aussi. Vous ne chantez pas immobile, vous avez besoin de bouger.
Oui, évidemment, non, parce que c'est de l'opéra. Donc on ne peut pas faire l'opéra, si on veut faire
statique.
Une version statique, non, ça ne donne pas... Ça donne pas l'effet.
Donc vous êtes tous des comédiens aussi.
Eh oui, il faut.
Il faut travailler la gestuelle, les mouvements.
Oui, il faut réfléchir à comment on interprète. Hier, par exemple, c'était ma collègue Anaïs, elle mourait deux fois. Donc, elle a mouru en tant que Violette, en tant que Mireille. Mais ce n'est pas la même mort, parce qu'il y a eu une qui mourait de tuberculose et l'autre qui mourait
d'insolation.
Donc, il y a tout ce travail.
Oui,
il y a tout ce travail. Même pour moi, c'était Alfredo, c'était un jeune bourgeois. Et après, Vincent, c'était un jeune de la campagne.
Un vanier, oui.
Donc,
c'est tout un travail et vous y prenez plaisir, bien évidemment.
Ah, mais oui, évidemment.
On sent que vous partagez. Alors, je vous propose qu'on écoute le duo de la Traviata, que j'ai enregistré hier, donc la qualité n'est peut-être pas excellente, mais ça montre bien un peu cette ambiance. Alors, ce duo, c'est triste.
Et oui, c'est le duo de la fin, en fait, quand Alfredo revient et Violette est très malade, déjà. Et Alfredo revient, il lui dit « Ok, ma chérie, écoute, on va quitter Paris, on va vivre ensemble jusqu'à la fin. » Mais bon, malheureusement, ce n'est pas possible.
Alors, nous écoutons.
Thank you.
Je vais poser la question, à mon avis, je connais la réponse, mais Carlos, qu'est-ce que vous préférez dans tous ces opéras?
Bon alors... Oui, alors non, il y a certains opéras que je tiens à cœur et ils me touchent plus que d'autres, par exemple. Mais bon, Werther, la prochaine opéra qu'on va faire, c'est l'une d'entre eux. Mais voilà, mais j'aime tout le répertoire. Et c'est tellement varié. Chaque répertoire, il y a des choses...
Alors, on rappelle peut-être, parce que tous nos auditeurs n'ont peut-être pas écouté les premières émissions avec vous, votre parcours, parce que vous êtes... d'Amérique du Sud.
Mais oui, je suis né à Buenos Aires, en fait. Oui,
et
oui,
quand
oui.
Vous chantez, vous n'avez pas d'accent.
Et ça, c'est mon travail. C'est, oui, en fait, voilà, quand on chante, on travaille beaucoup pour donner un accent neutre dans chaque langue. Quand je chante en allemand, c'est la même chose. Quand je chante en russe, c'est la même chose. Et il faut, pour une question déjà de musicalité de la langue, et surtout pour une question de compréhension, le public doit comprendre, doit arriver à comprendre ce qu'on chante. Voilà,
c'était très bien dans Mireille, où c'est en français, que vraiment, vous aviez tous les deux une diction parfaite, c'est-à-dire on comprenait chaque mot.
Oui, c'est hyper important parce que, alors, si on veut l'opéra, oui, c'est quelque chose un peu artificiel, si on veut. Et parfois on s'écrit « je t'aime » pendant 15 mesures, donc ce n'est pas naturel du tout.
Vous êtes mort, mais vous agonisez pendant 10 minutes.
et du coup, il y a une musique qui parfois risque de cacher un peu la compréhension du texte. Ouais. Et donc, c'est notre travail à nous, en tant que chanteur, de maintenir cette naturalité, cette compréhension. Je tiens beaucoup à ça.
Alors, rappelez un peu votre parcours, Carlos.
Alors, je suis né à Buenos Aires. J'ai commencé en chantant du tango.
Avec votre père,
quand c'est mon autre père, quand j'avais 4 ans. Après, voilà, j'ai fait toutes mes études au Théâtre Colón de Buenos Aires, à l'Académie. Et après, quand j'étais très jeune, j'ai débuté au Festival d'automne de Paris à 23 ans, en 2003. Et après, je suis allé en Italie. J'ai commencé toute ma carrière en Italie, qui m'a ouvert les portes de l'Europe, du reste du monde. Et je suis arrivé en France en 2014.
Voilà, oui. Et voilà 10 ans que vous êtes à Nîmes.
Exactement.
Pourquoi ?
Parce que ma vie privée m'a mené à Nîmes.
Ah,
voilà.
C'est indiscret, pardon.
Non, ce n'est pas indiscret du tout. Non, mon mari, voilà, travaille ici à Nîmes. Donc, on a décidé de quitter Rouen. Et...
Le climat est plus doux ici.
Ah, oui.
Un peu moins de pluie.
Ah oui, évidemment. Voilà.
Bon, vous retournez en Amérique du Sud de temps en temps.
Oui.
Vous y chantez aussi.
Mais oui. Alors, l'année dernière, je suis retourné pour chanter au Théâtre Colón, toujours. Et j'ai chanté Orphée aux Enfers. Et Offenbach, oui, il m'amène. Alors, il m'invite souvent, sauf que je ne peux pas aller là-bas, c'est toujours un peu... Le voyage, ce n'est pas cool, oui. Mais voilà, non, chaque fois que je peux, j'y vais, évidemment. Oui.
Alors, on va parler un peu de Mireille un peu plus longuement, parce que, bon, je connaissais le poème Mireillot, Frédéric Mistral, mais je ne connaissais pas, et c'est vrai que Laurence nous raconte un petit peu le thème, l'histoire, ça nous mettait un petit peu dans l'ambiance, et puis il y avait ce soleil. Vous le connaissiez déjà, cet opéra, Mireille?
Alors oui, je connaissais l'opéra. Et malheureusement, c'est un opéra qu'on ne joue pas beaucoup.
Non, c'est...
Mais il y a une explication. Alors, c'est un opéra, en fait, qui a été beaucoup touché par le compositeur lui-même, par Gounod, et après par Reinaldo Hahn, en fait. Car Reinaldo Hahn, c'était un compositeur français qui a repris et tout l'ouvrage de Gounod et l'a redonné. Vous savez, à l'époque, les compositeurs, ils devaient gagner quand même de l'argent. Donc, il faisait un ouvrage. Si ça ne marchait pas, il le retouchait. Donc, c'est pour cela que Mireille était beaucoup...
Il y a plusieurs fins.
Il y a plusieurs fins parce que le public disait non, c'est trop simple. Ah non, il faut une tragique après. Et Reinaldo a écrit quelqu'un pour... Gounod a écrit quelqu'un pour sa femme aussi. Voilà, parce qu'il donnait... C'était quelqu'un qui chantait hyper aigu. Il disait, ah mais tu as écrit quelque chose, il n'a pas d'aigu. Donc voilà, c'est cette anecdote en fait.
Il y a toutes les coulisses en fait de la composition.
Et en fait, le personnage, le rôle de Mireille, c'est un rôle écrit hyper difficile à chanter. Parce qu'il faut à peu près 3 sopranos différentes et tout au long de l'opéra. Et c'est d'une difficulté hallucinante. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, Oui, il y a des chanteuses qui pourraient le faire, mais ce n'est pas la conception de l'ouvrage. Et comme je dis, c'est hyper difficile. Et on a eu un super Mireille, par exemple, c'était Jory Bouet dans les années 30-40. Mais c'était un vrai soprano dramatique, colorature, avec des super aigus.
Et quand on a déjà entendu Anaïs hier, on se dit qu'est-ce que c'est que les super aigus.
Ah mais oui. Et on n'a pas fait toute l'opéra parce qu'il y a des parties qui sont hyper pour un soprano léger, il y a d'autres parties pour un soprano dramatique. Donc c'est ça la difficulté de cet opéra là. Mais moi je trouve que c'est un ouvrage déjà. Je trouve dans cet ouvrage toute la fraîcheur et de la région. Et voilà, il y a des extraits qu'on a joués hier, quand même, qu'on entend toute cette simplicité de ces personnages. Je trouve que Gounod a mis en musique vraiment toutes ses qualités et ces chaleurs du soleil.
Enfin, il y a toujours le patriarcat, il y a toujours les pères qui sont assez immondes.
Surtout dans cette époque, c'était. Voilà. Mais en tout cas, dans l'opéra, général, même maintenant. Oui, Traviata,
Traviata.
Mais je trouve ça que c'est. Voilà, on nous montre une histoire. voilà, on a toujours le mauvais, le bon. Donc, voilà, le public a choisi.
Alors, on va écouter pareil, un petit extrait que j'ai enregistré hier. Et vous n'avez pas de costume, et je suppose que quand vous jouez en costume, il y a encore une dimension supplémentaire.
Oui, évidemment, parce que voilà, le visuel pour le public, c'est hyper important, et pour nous aussi.
Bien sûr,
parce que le costume, ça nous aide, ça nous conditionne, ce n'est pas la même chose avoir des chaussures Louis XV que marcher à pieds nus ou avec des chaussures, modernes, voilà.
Beaucoup de contraintes, beaucoup de travail.
Ah oui.
Beaucoup de répétitions. Alors, nous écoutons ce petit extrait. C'est... Quel extrait ?
Alors, c'est la chanson de Magali, en fait. C'est tout au début de l'opéra. Et Mireille et Vincent et Samus à chanter, à jouer un peu, voilà, chacun un rôle. Oui, ils sont heureux avec tous ses copains à la campagne, voilà.
Sur Radio Alliance Plus, merci Carlos Natale, de venir au studio le lendemain de l'opéra.
C'est toujours un grand plaisir.
Parce que la veille, c'était les répétitions, donc on s'adapte.
Exactement.
Voilà, il faut travailler, on l'a dit et redit. Alors le prochain, c'est le 28 mars à 17h, pareil. À un moment, c'était 11h, je trouve que 17h, c'est mieux.
Non, c'était toujours 17h.
Ah hein. Bon.
Ah oui.
Ah bon. Eh ben, écoutez, j'ai au rêve alors.
Oui.
Alors on va couper.
Ah non, vous ne rêvez pas. C'était 11h, mais c'était pour les écoles, pour les collèges, qu'on a fait l'année dernière.
Voilà. Alors, le 28 mars à 17h, c'est Werther ou la souffrance des sentiments. Alors, vous avez choisi quoi ? Vous savez déjà votre programme.
Oui, évidemment. Alors oui, le programme, ça va être dédié exclusivement à l'opéra Werther. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, on essaye toujours de créer un lien entre la littérature, la poésie, le roman et la musique. Et du coup, là, alors j'ai choisi cet ouvrage magnifique et de Goethe, en fait, qui a été mis en musique par Massenet. C'est un chef d'œuvre de l'opéra française, Werther. Et c'est un ouvrage que je tiens à cœur aussi.
Qu'est-ce que vous préférez, tout aime Werther.
C'est un opéra qui me touche beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'aime bien. Et je n'ai jamais joué sur scène encore. C'est un rôle... Voilà, que j'espère d'avoir la possibilité de le faire une fois sur scène. Et pour cette occasion, voilà, on va faire des extraits du premier et troisième acte. Voilà.
D'accord. Ok. Eh bien, donc, c'est noté. Et surtout, pensez à réserver parce que hier, c'était complet.
Mais c'est toujours complet. Heureusement, oui. Alors, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Et ce que je trouve, voilà, que ça me touche beaucoup, c'est qu'il y a évidemment les amateurs de l'opéra, qu'ils font un peu le tour un peu partout de la région. Mais il y a des gens qui viennent, que je sais, qui viennent d'Avignon, d'Alès, de Montpellier.
Il y a un public, justement, cette intimité de l'opéra.
Qu'il réserve, voilà, qu'il achète toujours les places pour tous les rendez-vous. Donc,
réservé par le Musée de la Romanité. Alors, vous n'arrêtez pas, puisque vous êtes dans Lucia di Lammermoor.
Oui.
Hein, ça fait un petit bout de temps là, que ça tourne et vous allez continuer.
Alors, on a fait la création en fait, à l'Opéra de Rennes tout le mois de janvier. Et on a déjà joué à l'Opéra de Rennes. On a fait 5 spectacles.
Un très beau costume. J'ai vu ça sur les réseaux sociaux. Doré, rouge.
Oui, c'est un très beau costume.
Talons.
Même si le personnage, c'est un peu bizarre parce que c'est moi qui achète Lucia. Donc, c'est un personnage mais bon, c'est comme ça. Et voilà. Et là, on va le jouer. C'est une coproduction, en fait, avec le Théâtre de l'Orient, l'Opéra de Nantes, l'Opéra d'Angers, l'Opéra de Massy, l'Opéra de Compiègne et l'Opéra de Reims.
Non. Comme je disais, vous êtes un grand voyageur. Mmh. Tous les musiciens sont, en fait, des grands voyageurs.
Mais oui, il faut. c'est la chose...
Alors ensuite, vous allez à Avignon pour Turandot.
Oui, mois de mai, oui, je joue à Avignon. J'ai fait Pong, l'un des trois masques, et l'un des serviteurs de Turandot et ses princesses bizarres quand même, méchantes. Mais voilà, et c'est une version qu'on fait. En fait, on fait la version originale, c'est-à-dire on va s'arrêter et on a fini d'écrire Puccini, son ouvrage, parce qu'il est décédé pendant qu'il a écrit cet ouvrage. Donc, voilà, normalement, on ajoute, il y a deux finales différentes dans cet ouvrage. Mais là, on va s'arrêter à la mort de Puccini.
Mm-hmm. Vous mélangez pas un peu tout ce que vous jouez, là? Comment vous faites au niveau de la mémoire
au niveau de la mémoire, ça va. C'est... on est habitué déjà, voilà, on travaille pour ça. Il y a beaucoup de travail, en fait. En amont, voilà.
Parce que jouez pas, en fait, plusieurs rôles vous savez, je pense maintenant au Metropolitan, où ils font 4-5 opéras, enfin non, 2-3 dans la journée, ils mélangent tout. Vous faites un rôle.
Et non, ça dépend, par exemple, en mois de mai, je vais jouer Turandot, et le lendemain, je vais jouer Lucia à Massy. Et après, le lendemain, je rentre à Avignon pour jouer Turandot.
Ah oui, mais, donc ça demande une souplesse du cerveau.
Voilà, on travaille beaucoup à l'amont parce qu'en fait, nous, les artistes lyriques, quand on reçoit un contrat, on le reçoit normalement 2 ans à l'amont.
Ouais.
Donc, on a le temps de préparer le rôle.
Minimisez pas tout de même votre travail.
Non, je minimise pas. Non, mais c'est du travail, évidemment. Mais comme je vous dis maintenant, aujourd'hui, par exemple, je suis en train de préparer ce que je vais chanter l'année prochaine.
Ah,
comprenez? Parce que c'est que je dois chanter maintenant jusqu'à la fin de l'année, je l'ai déjà travaillé.
D'accord.
Alors oui, je continue à travailler ma voix, etc. Mais le par cœur, la mémoire, tout ça, je commence déjà à le travailler.
Vous faites pas de dissociation. En fait, vous arrivez à comment dire, un petit peu faire des cases, voilà,
c'est comme on ouvre des petites questions dans le cerveau. En fait, le matin, on dit, ok, j'ai dédié une heure pour ce rôle. Mmh. Après, j'ai fait une pause, après une heure pour l'autre rôle. C'est, oui.
Alors, au mois de juin, c'est l'Italie. Vous êtes attaché à l'Italie. Hein,
Alors écoutez, c'est ma ville quand même parce que mes parents sont italiens tous les deux. Et j'ai vécu en Italie beaucoup. Il y a partie de la famille en Italie. J'ai beaucoup d'élèves aussi en Italie. Et j'ai beaucoup enseigné là-bas aussi. Et voilà, je travaille beaucoup en Italie aussi. Donc,
alors comment on vous définit ni argentin, ni italien?
Alors non,
ni
je suis italo-argentin. Et j'espère devenir français parce que j'ai demandé la naturalisation, oui, donc voilà, j'aimerais bien parce que voilà, la France, c'est un pays qui m'a accueilli depuis le début avec les bras ouverts, et voilà, j'aimerais bien, voilà.
Alors, il y a une nouveauté, c'est qu'en novembre, vous allez en Irlande.
Oui, c'est ça.
Vous parlez l'anglais, en fait, bien évidemment.
Oui, mais non, je suis très content parce que c'est le festival de Watford, en fait. Mm-hmm. C'est un grand festival d'opéra. En fait, de l'opéra et de la création. Donc, c'est la première année qu'il m'invite. Donc, voilà, je suis très content. Je vais faire un opéra de mon répertoire, un opéra italien de Rossini. Mais voilà, mais je suis content de participer quand même avoir cette expérience. Voilà.
Mais écoutez, puis on vous retrouvera pour la saison 26-27 de Apéro Opéra.
Mais oui, hein, oui, il y a déjà des dates. Non.
On ne dit pas, on ne dit pas. On reste sur Werther le samedi 28 mars. Et puis je vous propose, puisque c'est une émission sur l'opéra, hein, sur un chanteur lyrique, sur vos invités, je vous propose qu'on écoute Faya en générique de fin. Vous avez choisi quoi?
Alors, c'est un extrait qu'on a joué à l'Opéra de Nantes et à l'Opéra d'Angers en novembre. Et c'est La Vida Breve. C'est l'opéra de Manuel de Falla. Et en fait, c'est le petit. C'est un duo. Et
entre Salud,
oui, entre Salud et Paco, voilà, qui sont les deux amants de cet ouvrage. Et voilà, Salud, c'était Patricia Petitbon, moi j'étais Paco, avec l'orchestre de l'Opéra de Nantes.
Qu'est-ce que vous préférez entre, par exemple, un duo comme ça en orchestre, ou hier avec juste une pianiste, ou un opéra en costume? C'est très différent.
Ah oui, c'est hyper différent. Oui. Alors, évidemment, ce que je peux faire, c'est avec l'orchestre. Pourquoi? Parce que le compositeur, quand écrit l'ouvrage, et écrit les phrases qu'on chante par rapport à la couleur qui accompagne l'orchestre. Et parfois, on est doublé par une flûte, par un hautbois. Donc, notre voix, notre timbre de voix prend la couleur de cet instrument. Le piano, évidemment, c'est un instrument complet qui a été créé pour regrouper à peu près l'idée de l'orchestre du compositeur dans un instrument tout seul. Sauf que le piano, est, évidemment, il y a les pianistes sont... Yajin Park, c'est un magnifique pianiste, et joue très bien, mais le piano n'a pas la couleur, évidemment, de l'orchestre.
Pas, peut-être, vous souvenez, en arrière, quand on écoute les chefs d'orchestre, on dit c'est très compliqué pour nous d'arriver à mettre en valeur l'orchestre, mais aussi le chanteur, et que ça s'équilibre et que ça soit...
Oui, c'est un travail... j'avais donc qu'elle se le fait quand même.
Alors nous écoutons et nous finissons cette émission donc en musique, en opéra. Merci Carlos.
Merci à vous, bientôt. C'est un grand plaisir toujours.
Dis-moi, Paco, où est-ce que